Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profond encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
La poésie est la plus flagrante preuve de l'existence de l'homme. C'est une citation de Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez, dont il sera question d'ailleurs dans cette nouvelle émission d'un livre découvert animé pour Canal M par Clotilde Seil.
La table des matières.
La table des matières, oui, et puis d'abord, ben, un beau bonjour à vous toutes et vous tous qui nous écoutez, je dirais presque religieusement à chaque semaine pour faire vos choix parmi la grande bibliothèque du SQLA ici à Montréal. Alors aujourd'hui, je vais avoir la chance de m'entretenir avec Gérald Cousineau qui va nous présenter un nouveau livre. Je vais aussi recevoir ici en studio Francine Fontaine qui vient nous parler d'un livre de Michel Jean qui s'intitule Le vent en parle encore et qu'elle a lu ici bénévolement. Je vais également vous présenter un livre qui sera présenté par un autre bénévole la semaine prochaine qui s'appelle Pascal Bernard et le livre s'intitule Pour trois couronnes. Il est signé François Garde. Vous aurez même droit à un extrait de ce livre-là. Des nouvelles et des livres, j'évoque la sortie de l'œuvre magistrale presque tout de Truman Capote. C'est chez Gallimard, c'est 1500 pages et du coup je suis allé voir ce que nous avions de ce prodigieux auteur américain. On n'en a pas beaucoup, mais quand même, on en a quelques-uns. On évoquera aussi, puisque ce sera dans la chronique, le classique de la semaine, 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Je vous en parlais un tout petit peu au début. Et puis, nous finirons avec quelques titres en rafale, comme je le fais à chaque semaine. Mes amis, nous sommes aujourd'hui le 21 janvier, si vous écoutez cette émission-là en direct, mais je ne vais pas vous mentir, nous l'avons enregistrée, nous sommes aujourd'hui en fait le 7 janvier. Et je sais que deux semaines, parfois, dans le monde de l'actualité, ça passe vite dans nos têtes, mais il y a deux semaines, souvenez-vous, il y a eu ce drame à Paris. Dans les locaux de Charlie Hebdo. Vous vous demandez bien où je veux en venir. Eh bien, simplement que nous devions recevoir aujourd'hui Mathieu Prost, que vous connaissez peut-être si vous êtes des fidèles de ICI Radio-Canada Télé. Mathieu Prost, chroniqueur, journaliste, notamment sur RDI et aussi bénévole ici, d'ailleurs, chez Vues et Voix. Mais Mathieu m'a téléphoné ce matin et, évidemment, à cause des événements, il ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, ce que l'on comprend bien, mais ce n'est que partie remise avec Mathieu Prost, je vous le promets. Alors, nous avons décidé de vous reproposer un extrait de l'entretien que j'avais eu il y a quelques semaines, quelques mois, avec Louise Tremblay Desciambre. Alors, voilà pour la table des matières d'aujourd'hui.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour Gérald Cousineau, comment allez-vous Gérald?
Bonjour Clotilde, je vais très bien, très oui. Très bien, merci, et vous-même?
Oui, ça va bien, je vous remercie. Je suis très contente, encore une fois, vous êtes arrivée avec plusieurs propositions. À chaque fois que je vous appelle, hein, Gérald, vous m'arrivez toujours avec... Et moi, à chaque fois, je vous dis vraiment n'importe quel de ces choix, parce que je trouve que ce sont toujours des moments forts de la littérature. Finalement, vous en avez choisi un. Hein.
Oui, j'en ai plein ma besace, c'est vrai, et j'ai dû choisir. C'est toujours difficile, mais j'ai choisi donc un roman italien d'un auteur que j'avoue que je ne connaissais pas.
Okay.
Antonio Pennacchi, faut dire qu'il est peu connu encore en français, peu traduit, mais j'ai lu son livre le plus connu, Canal Mussolini, paru en 2010, et pour lequel il a eu le prix Strega. Strega, c'est le Goncourt italien.
Ah, ok.
Quand on pense que des gens comme Umberto Eco et Cesare Pavese l'ont eu avant lui, eh bien, ça vous donne une idée de la qualité du prix.
Je voudrais juste ouvrir une parenthèse et Pennacchi, je voudrais juste l'épeler pour les auditeurs.
Oui, alors c'est P-E, je lis celui-ci ici,
d'accord.
P-E-N-N-A. P-E-N-C-C-H-I, Antonio, je crois qu'on prononce Penaki.
Oui, c'est
Antonio
ça.
Antonio Penaki, donc né en 1950, il a donc 64 ans aujourd'hui. Il a commencé à publier en 1994 et on raconte que son premier livre, il l'a envoyé à 55 éditeurs. Pardon, il a envoyé 55 fois à 13 éditeurs, je pense. Parfois même, il changeait le titre et finalement, ça a marché. Il a continué, il publie encore. Mais c'est un écrivain, mais c'était un ancien ouvrier. Hein. Ce monsieur a été ouvrier pendant une trentaine d'années à Latina, à sa ville natale.
C'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi, parce que moi qui connais un petit peu le contexte de ce bouquin, c'est peut-être pour ça qu'il a été... Non, parce que là, on est plutôt dans le milieu quoi, de l'agriculture, je pense,
oui,
non?
Oui, exactement.
Ah non, c'est ça, on n'est pas dans le milieu ouvrier, pardon.
Donc, c'est une chronique, commençons par le mot chronique, c'est également une face, j'en parlerai tantôt, mais c'est une chronique d'une famille italienne depuis la fin du 19e siècle jusqu'en 1945, disons, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à la mort de Mussolini. Donc, c'est une famille qu'on suit, ce sont les Peruzzi. Bon, Peruzzi, il y a, tenez-vous bien, à 17. Frères et sœurs, c'est véritablement une tribu incroyable, des paysans sans terre, tendance marxiste, comme on le dit en préambule. Ils ont la tête dure et le sang chaud, tout à fait, c'est tout à fait une bonne définition. Alors, ces gens-là vont répondre à une invitation d'un certain Benito Mussolini, qui invite donc les gens à émigrer au sud de Rome, dans ce qu'on appelle, j'avoue que je ne connaissais pas cette région, les marais pontins, les marais du Po, le fleuve Po. Donc pourquoi? Parce qu'ils sont très insalubres. Ils sont infestés de moustiques et ces moustiques causent la malaria.
Ah, oui.
Donc il y a à peu près 30 000 personnes, dont les Peruzzi, qui vont émigrer au sud de Rome et qui vont assécher littéralement les marais pontins, qui vont construire des canaux dont l'énorme canal Mussolini. D'ailleurs, je me demande s'il porte encore ce nom-là. Ils vont donc construire un énorme canal et ils vont bien sûr bâtir des villes, dont la ville de Latina, où est né justement l'auteur. Donc, évidemment, il nous raconte ça depuis la fin du 19e jusqu'en 45. C'est très axé sur l'agriculture. Quand je parle de chronique, je parle également de farce. Pourquoi une farce? Parce que entre la partie proprement historique, c'est vrai, émergence des fascistes, marche sur Rome, prise du pouvoir par Mussolini, ça c'est vrai, on ne peut pas le contester, ça s'est passé comme ça. Mais il y a un côté aussi clownesque. Par exemple, un des oncles n'était vraiment pas fait pour l'agriculture. À un moment donné, il se demande, elle est trop basse la terre, ne pouvait-on pas la placer un peu plus haut? Bon, ça vous donne une idée du genre d'humour qu'on trouve. Et c'est ça, on balance continuellement entre l'histoire et l'humour, parce que cette famille, encore là, c'est une véritable tribu. La mère est toute puissante, c'est elle, la mama typée, comme on l'imagine, là, qui règne sur cette tribu. Donc, on assiste à tout ce qui s'est passé jusqu'à la prise du pouvoir de Mussolini, l'aventure malheureuse en Afrique du Nord, la guerre d'Espagne, le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. L'auteur dit « Nous avons épousé l'Allemagne nazie, malheureusement pour l'Italie, et on assiste à la déconfiture, on le sait, de l'armée italienne. » Bon, la mort de Mussolini, la mort tragique et lamentable du dictateur, et bien sûr la mort des grands-parents, des grands-parents incroyables que le narrateur met en scène avec les oncles, les tantes, tout ça.
Autrement dit, c'est l'histoire avec un grand H et l'histoire de cette famille en parallèle.
Voilà, c'est l'histoire avec un grand H et la petite histoire, si on veut. Et d'ailleurs, l'auteur dit, est-ce que tout ça est véridique? Il dit oui. C'est la vérité des Peruzzi. Déjà, on peut en prendre et en laisser, mais sans toutefois remettre en question la véritable histoire. Et d'ailleurs, il y a une critique qui a trouvé ça un peu déconcertant, cette espèce de révisionnisme de l'histoire italienne.
C'est qui, ça?
C'est Marcel Padovani. Elle a trouvé ça curieux, cette espèce de... Elle a vu là-dedans comme un hommage vibrant au dictateur, finalement, à Mussolini. Or, nous, on sait ce qui s'est passé après. Ça a donné la guerre. Or, Mussolini, c'était qui? C'est un dictateur, quand même. Il était à la fois ridicule et féroce. Mais n'empêche que c'était un dictateur. Or, là, on est un peu mal à l'aise parce qu'il y a comme un hommage à cet homme-là qui a quand même donné du travail à des millions d'Italiens. Et
Mais je ne pense pas que ce soit le but, de toute façon,
non,
du bouquin,
du
quand même, hein, on s'entend. Moi, j'en avais trouvé une, c'était dans l'Express, le 23 janvier 2012. « Qu'il soit bon ou mauvais, ce livre est la raison pour laquelle je suis venue au monde
oui, »,
a dit Antonio Pennacchi. Et le critique de l'Express disait « Il peut être tranquillisé, le livre de sa vie est excellentissime.
Oh, » Oui, d'ailleurs, c'est vraiment le livre d'une vie. Hein. Et d'ailleurs, ça se lit fort bien, hein. Qu'on soit d'accord ou non avec l'hommage. Encore là, on peut ne pas voir là-dedans un hommage à Mussolini, mais n'empêche que cette brique, c'est une brique, hein, 500 pages, se lit fort bien. Et je ne l'ai pas dit, mais le narrateur interpelle constamment le lecteur. Mm-hmm. Ce qui fait que tout ça est raconté de façon très alerte, très vivante.
Alors, on va peut-être rappeler le titre parce que l'heure tourne. Vous savez comment c'est quand on parle de quelque chose qu'on aime comme ça va toujours tellement vite. C'est le livre s'intitule Canal Mussolini.
Canal Mussolini d'Antonio Pennacchi.
Pennacchi.
Je précise que c'est fort bien lu, ce qui, évidemment, augmente encore le plaisir du lecteur.
Oh, ben merci beaucoup de nous l'avoir signalé, Gérald. Moi, personnellement, je vous prendrai bien toutes les semaines pour me faire une chronique. Hein?
Alors, je ferai renégocier mon cachet.
Avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée et merci encore de partager toujours aussi avec autant d'intelligence et de sympathie c'est tous ces livres-là, Gérald. Merci beaucoup.
Au plaisir, Clotilde.
À bientôt.
Au revoir.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et je dois dire que je suis particulièrement touchée, émue, contente d'accueillir aujourd'hui Louise Tremblay-Desciambre.
Merci, tout ça pour moi.
Oui, oui, tout ça pour vous parce que je trouve que lorsqu'on a la possibilité de côtoyer quelqu'un qui a réussi par son écriture à rallier autant de monde autour d'elle et que ce soit sur papier ou par audio, parce que je peux vous dire que dans le domaine des livres audio, OSQ est là, il faut un petit peu de patience avant de lire de Louise Tremblay-Desciambre parce que les livres sont quasiment tous prêtés.
C'est bien.
Ça vous fait quoi quand on vous dit ça? Est-ce que maintenant vous l'avez assez entendu?
On n'en a jamais assez de ça. C'est un travail de solitaire, l'écriture, bien sûr. Mais on veut rejoindre les gens. Alors, quels qu'ils soient, je suis contente de savoir que les gens qui ont des problèmes de vision puissent continuer à lire.
Absolument.
Ça, je trouve ça absolument génial.
Vous avez été touchée par la visite que vous avez faite de l'organisme. On ne s'attend pas à ça. On a du mal à figurer toutes ces cabines et tous ces gens.
C'est une petite ruche bien active. C'est merveilleux.
Avec vos mots à vous, donc, et notamment les mots de Louise Tremblay-Desciambre, vous dites sur votre site Internet, « Je ne connais rien de plus difficile que de parler de soi. J'ai toujours peur d'exagérer. »
C'est vrai.
Exagérer en quoi? Qu'est-ce que vous pourriez...
En bien ou en mal. Des deux côtés. On est ce qu'on est. C'est pas dans ma nature de passer son temps à m'auto-analyser. Je me lève chaque matin et j'essaie de faire du mieux que je le peux la journée qui s'offre à moi, tout simplement. Alors, qu'en dire? Je mange, je m'occupe de ma pinotte à la maison. J'ai encore une jeune demoiselle de 14 ans à la maison.
Les 8 autres sont partis parce que vous avez eu 9 enfants?
Oui, j'ai eu 9 enfants. Par choix. On ne vit plus au début du siècle. Moi, je ne suis pas comme la Emma de mon livre, de ma dernière série, qui, elle, a subi les maternités les unes à la suite des autres.
Oui.
Moi, ça a été des maternités vraiment voulues.
Voulues.
Oui,
et
vraiment.
Votre petite pinotte, elle a quel âge, alors, la petite
Elle vient
dernière.
D'avoir 14 ans, la jeune demoiselle. Elle n'était pas dans mon plan de carrière, par exemple. Elle vient d'un deuxième mariage. Alors, elle a 10 ans de plus jeune que les autres. Et c'est ça, je regoute aux joies de l'adolescence, présentement.
Et au milieu de tout ça, de tous ces enfants qu'il faut élever, c'est le moins qu'on puisse dire. Neuf enfants dans les années 2000, c'est quelque chose.
Mm-hmm.
Il y a ces nombreux enfants en littérature.
Oui.
Vous signez des livres, ce sont des séries incroyables. Par exemple, on va parler de cette série, Les héritiers du fleuve, mais la série d'avant.
Les mémoires d'un quartier.
Les mémoires d'un quartier, il y avait combien de tomes?
Il y en a eu 12, il n'y en aura plus jamais 12. C'est très exigeant. Un livre, c'est comme une bouteille de vin. Le livre qu'on lit ne doit pas faire regretter celui qu'on a lu.
Oh,
alors, il faut toujours qu'il y ait un petit quelque chose de plus, une étape. Rendu à 12, là, on se dit, bon, on ne doit pas se répéter, on doit apporter cette... Alors oui, j'ai trouvé ça lourd d'attente de la part des gens, lourd Ça demande beaucoup. Alors, je me suis dit, bon, on va s'en tenir à 4, peut-être 5, mais on dépassera plus ça. J'ai plus l'âge. Je vieillis, puis j'ai le goût de prendre ça un petit peu plus relax.
Le syndrome de la page blanche, Louise, tous les matins. Oui.
Tous les matins.
Et comment on lutte contre ça? On écrit, puis après, on barre ou...
Non, on relit ce qu'on a fait la veille, en corrigeant. Ce qui veut dire que chaque partie de livre, chaque phrase, chaque paragraphe a été lu, relu 20 fois, 25 fois et corrigé 20 fois, 25 fois. Encore ce matin, avant de venir, j'ai lu ce que j'avais fait hier. Je n'avais pas le temps de rajouter du texte aujourd'hui, mais j'ai relu, j'ai corrigé, j'ai... C'est Stephen King qui disait « Un bon manuscrit est un manuscrit dans lequel on a coupé 20 %.» Ah. Alors, faut avoir le crayon gras. Faut être capable de le faire. C'est difficile. Il y a des fois qu'on n'a pas envie de, mais oui, effectivement, il faut faire confiance au lecteur. On n'a pas besoin de toujours répéter. Il l'a compris.
Est-ce que vous avez un dimanche, Louise Tremblay-Desciambes, ou c'est du 7 jours sur 7?
7 sur 7.
Tous les auteurs disent ça. À chaque fois, je me dis, là, j'en trouvais un à un moment donné qui va me dire, ça n'existe pas. On n'imagine pas, et c'est pour ça que je veux le redire ici, à quel point l'écriture est un sacerdoce. Êtes-vous d'accord avec ça, Louise Tremblay-Desciambes?
Oh, c'est pas un sacerdoce pour moi, c'est une passion.
Une passion.
C'est une passion. Quand on aime quelque chose, moi, j'aime le spaghetti, j'en mange au moins 2 fois par semaine, n'est-ce pas?
Avec une salade.
Avec une salade. Moi aussi, j'ai ce côté, côté givré, puis le côté, côté santé. Mais non, pour moi, une journée sans mes personnages, je vais m'ennuyer. Ils m'habitent au même titre que mon mari et ma fille avec qui je vis quotidiennement. Ils sont là. Ils sont dans mon bureau. Ils m'attendent. Je ne suis pas capable de les laisser attendre trop longtemps. J'ai besoin de ça. Quand les gens nous disent, bon, ils me le disent souvent, arrêtez pas. Mais non, je ne pourrais jamais arrêter en ce sens que c'est moi que je punirais. J'en ai besoin, comme j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de boire et manger. L'écriture fait partie de ma vie depuis toujours. J'ai appris à lire à l'âge de 4 ans et ça me suit depuis ce temps-là parce que pour moi, c'est une même passion. Lire, écrire, c'est la passion des mots, point.
Est-ce que ce sont vos parents qui vous ont amené à la lecture?
Oui, c'est maman qui m'a amené à la lecture, mais c'est papa qui m'a amené à l'écriture.
Oh,
parce que papa est un conteur absolument extraordinaire. Il vivrait aujourd'hui, il serait jeune, je dirais à Fred Pellerin, attache ta tuque, tu vas voir la compétition.
Ah ouais.
Papa, c'est un conteur extraordinaire. Et quand j'étais à une bobinette de 2, 3, 4 ans, il inventait des histoires juste pour moi. Des histoires qui n'avaient pas d'image pour les soutenir. Alors, c'est ma tête à moi qui les faisait. Et bon, soir après soir, j'avais un petit bout de l'histoire. J'avais 24 heures pour inventer la suite. Et quand on venait le lendemain, papa disait « Où on est rendu? » Ben, je disais « Bon, on est rendu à telle place.
Ouais. »
Ah ouais.
Ah oui, ah
là,
oui,
il y avait
oui.
une grosse minute de silence. Et quand il reprenait son histoire, il commençait toujours par autre chose que ce que moi, j'avais imaginé. Alors, c'est un jour, j'ai eu le goût de faire des images à mon tour, tout simplement.
Et vous avez écrit un premier livre et il a été édité.
Oui, j'ai eu ce privilège incroyable d'être sélectionné comme ça une première fois. Première maison, premier contrat, ça a été tout de suite. C'est un privilège, puis c'est un privilège d'avoir su toucher le cœur des gens,
oui.
Ce qui fait que c'est mon métier.
Et non seulement ça, mais permettez-moi aussi de le dire, et je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Il est évident que je ne veux pas parler que d'argent et de mercantilisme, mais le nombre d'écrivains, d'auteurs, que ce soit au Québec, en France, partout dans le monde, qui ne vivent pas de leur plume,
eh oui.
Ce n'est pas votre cas.
Non.
Alléluia.
C'est pour ça que je dis que c'est un privilège immense.
Ouais, c'est
parce
ça.
Que c'est pas vrai que quelqu'un qui n'en vit pas n'est pas bon.
Non, c'est ça. Et puis ça doit être terrible.
Excellent.
Et puis écrire et de ne pas être lu, c'est
oui, mais il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Il faut inonder le marché. C'est pour ça que pendant quelques années, les gens disaient « Mais pourquoi il y en a autant? » Je voulais arriver à l'endroit où je suis aujourd'hui. Alors, j'ai travaillé beaucoup. Et bon, ça a donné ça, mais ça a pris 10 ans avant de dire que je vivais de ma plume. Ça a pris 10 longues années. Bon, des années de plaisir aussi. Parce que j'aime ce que je fais. J'ai eu le privilège de rencontrer un éditeur qui a été extraordinaire, qui a toujours cru en moi, et de rencontrer...
Qui est toujours le même maintenant? Est-ce qu'on
parle toujours
de
Monsieur Saint-Jean? Monsieur Saint-Jean est décédé, mais il a passé le flambeau à ses filles qui sont qui ont vraiment relevé le défi avec brio, vraiment. Ouais. Et il y a eu un second mari qui m'a soutenu dans ça, puis qui a dit, regarde, toi, ta job, c'est d'écrire. Vas-y. Alors, je te soutiens. Alors, c'est tout ça mis ensemble, puis c'est le public qui s'est tanné d'être sur une liste d'attente, qui a dit, bon, ça y est, là, j'en ai assez, on va l'acheter, et tranquillement, ça fait de boule de neige.
Je voudrais qu'on revienne sur deux titres. D'abord, une série, Les héritiers du fleuve. C'est une des raisons pour lesquelles je vous ai invité. D'une part, parce que je voulais que vous nous parliez justement de votre amour de la littérature, parce que ça, je le savais, et de l'écriture. Les héritiers du fleuve, le tome 3 vient d'arriver au SQLA. Oui, on a toujours un livre de retard, malheureusement, parce que ça prend toujours le temps de la production sonore. Et je sais qu'on est déjà en train de travailler sur le quatrième et dernier tome, donc il devrait sortir d'ici quelques mois. Mais là, donc, le tome 3, Les héritiers du fleuve. Évidemment, comment peut-on résumer une histoire comme ça? Je vous demande juste, si par hasard, quelqu'un ne savait pas de quoi ça parle, si par hasard, quelqu'un n'avait pas lu les héritiers du fleuve.
Le Québec... La fin des années 1800, moi, je trouve important de connaître d'où l'on vient pour comprendre où on est et où on veut aller. Donc, c'est un peu tout ça. Cette époque où, finalement, avant le camionnage, où le fleuve était le grand boulevard du Québec, on se promenait... C'est un peu bête de dire ça, mais en 1887, il était plus facile de se visiter d'une rive à l'autre et plus court dans le temps qu'aujourd'hui, alors qu'on doit faire le détour par Québec pour prendre le pont ou qu'on doit se rendre à Tadoussac pour prendre le traversier. À l'époque, il y en avait des caboteurs qui traversaient tous les jours. Alors, on pouvait aller visiter la parenté de l'autre côté. C'est sûr, on était arrêtés durant l'hiver parce que là, les glaces prenaient toute la place. Mais il y avait quand même de mai à octobre, novembre.
Autrement dit, dans Les héritiers du fleuve, en dehors de tous ces personnages... que vous aimez, que l'on suit pendant quatre tomes. Là, nous, on est rendu au tome 3. Le fleuve est aussi un personnage
en
essentiel.
Soi, oui. Il va aller chercher sa part aller chercher son salaire aussi en vies humaines, parce que c'était quand même pas facile non plus. Là.
Non, c'est ça.
C'était une époque difficile. Mais malgré les difficultés au quotidien, malgré ce manque de facilité comme on a aujourd'hui, je crois que c'était une belle période. Mmh. C'était cette période de l'entraide, c'était cette période de... On prenait le temps de vivre, on vivait avec la nature, on vivait avec le soleil, on se levait et on se couchait avec lui.
Et on était très axé sur la collectivité, beaucoup plus que maintenant, où je pense qu'on est beaucoup plus axé sur l'individualisme.
Tout à fait. Mmh. Moi, quand j'étais jeune étudiante, on me disait, au tournant du siècle, ça sera une société des loisirs. Je regarde mes enfants aujourd'hui, ils travaillent bien plus que moi, je l'ai fait. Il est où le loisir? Ils n'en ont plus. La fin de semaine, c'est la course folle pour réussir à tout faire. Et bon, finalement, je pense qu'on a été... À ce niveau-là, j'ai été privilégiée aussi. J'ai eu de belles années.
Comment on fait, Louise Tremblay Desciambre, lorsqu'on fait naître des personnages, on les met au monde, et à un moment donné, on referme le 12e tome, par exemple, d'une série, et on dit au revoir à ces personnages-là, ou alors on les fait mourir?
Un deuil.
C'est un deuil?
C'est un deuil. On s'ennuie. Moi, j'avais, dans les mémoires d'un quartier, j'avais un personnage assez pittoresque qui s'appelait Évangeline. Mm-hmm. Une femme bien en gueule. Et son patois, c'était vierge. Alors, je m'ennuie d'elle. Ah, moi, les personnages, quand je dis qu'ils m'habitent, c'est que quand j'entre dans mon bureau, ils sont là, ils m'attendent tous les matins. Et quand c'était Évangeline qui prenait toute la place, c'était quelque chose. Là, actuellement, c'est Célestin. Un peu simple d'esprit, un grand gaillard. J'adore ce personnage-là. Et il a été patient, il m'a attendu pendant un mois, là. Il était assis, les deux mains sur les genoux, il attendait que je lui dise, bon, c'est à ton tour, vas-y, raconte-moi. C'est eux qui me racontent leur histoire.
Quel personnage attachant. J'ai Francine Fontaine à côté de moi, qui est également bénévole ici chez Vues et Voix. Et vous me disiez, vous ne connaissiez pas encore Lise Tremblay Desciambre, mais avouez que quand on entend cette femme-là, on a envie de la lire.
Oui, absolument. Oui.
C'est pour ça que je voudrais rappeler aux auditeurs qui viendraient peut-être de se joindre à nous et qui se diraient peut-être, mais on l'a déjà entendu, ça. Oui, vous l'avez déjà entendu. C'était une reprise que j'ai choisie pour vous parce que malheureusement, notre invité du jour, Mathieu Prost, n'a pas pu se présenter ici au studio puisque nous sommes en fait, non pas le 21 janvier, mais le 7 janvier, au moment où nous enregistrons cette émission, la date de la tragédie à Charlie Hebdo, qui fait que Mathieu Prost est retenu à Radio-Canada pour ses activités professionnelles, mais ce n'est que partie remise avec Mathieu. Cependant, nous allons poursuivre cette émission, notamment avec la chronique hebdomadaire, le classique de la semaine.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Et j'ai choisi pour vous celui dont j'ai lu la phrase d'ouverture à cette émission. La poésie est la plus flagrante preuve de l'existence de l'homme. J'ai nommé Gabriel Garcia Marquez et 100 ans de solitude. Ce monstre de bouquin que Francine a lu, vous m'avez dit quoi, 4 ou 5 fois, Francine, vous avez
3
lu?
Ou 4 fois,
3 ou 4 fois, certainement. Oui, oui. Donc j'ai bien fait, je pense, de le mettre au chapitre de ce classique de la semaine. Faut-il rappeler que 100 ans de solitude, c'est cette histoire légendaire d'une lignée, celle des Buendia, et du village auquel elle s'identifie. Je trouvais toute une analyse extraordinaire qui est signée par une femme qui s'appelle Eve-Marie Fell. C'est vraiment sur le net. Si vous faites Eve-Marie Fell, 100 ans de solitude, Encyclopédia Universalis, vous allez tomber là-dessus. Et c'est une analyse très, très fouillée de ce livre où elle nous dit que... elle nous raconte à sa façon ce livre-là et vous allez voir, elle en fait un résumé vraiment très chouette. Elle dit, c'est comme dans un mythe aborigène, un couple errant, José Arcadio, Buendia et Ursula, ou Ursula si vous préférez, créé en un lieu et en un temps indéfinissable. Un hameau, Macondo, fondé sur la fraternité, l'âge d'or des temps originels, se dissipe lorsque par hasard le contact s'établit avec le reste du monde et que l'argent s'infiltre dans les rapports humains. À mesure que la dynastie des Buendia s'étend et que 6 générations successives sont bourgeoises, la collectivité s'insère dans l'histoire économique et politique du continent. La société de Macondo se diversifie, les inégalités se creusent, la guerre civile fait rage, l'impérialisme nord-américain détruit hommes, bêtes et paysages. D'abord éblouis par le progrès technique, les Macondins s'appauvrissent et finissent par disparaître victimes d'un cyclone purificateur. La région enchantée qu'avait explorée José Arcadio Buendia à l'époque de la fondation du village et où avaient ensuite prospéré les plantations de bananes n'était plus qu'une immense fondrière de souches en putréfaction à l'horizon lointain de laquelle on put voir, pendant plusieurs années, l'écume silencieuse de la mer. C'est pas facile de résumer comme ça, parce que c'est une brique monumentale que ce roman total, aussi comme elle le dit Madame Fell, cette saga des Buendia qui prend à bras le corps, comme les grands textes mythologiques, tout ce qui concerne la vie de l'homme de sa naissance à sa mort. Si vous avez envie de vous replonger dans ce livre de Gabriel Garcia Marquez, du moins, et faire comme Francine, qui l'a lu 3 ou 4 fois. Parce que ça mérite ça, à chaque fois, on redécouvre bien des choses. Eh bien, ne vous gênez pas, faites-vous ce plaisir et relisez 100 ans de solitude. Alors, je vous rappelle que vous écoutez l'émission Un livre découvert et c'est Clotilde Seille et ses invités, bien sûr, sur les ondes de Canal M qui vous y accueillent.
Écoutez Un livre découvert avec Clotilde Seille et ses invités. Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Et ce sera la bénévole du jour. Bonjour Francine Fontaine.
Bonjour Clotilde.
Je suis contente que vous soyez revenue à cette émission-là. Vous avez accepté toujours, vous m'avez dit oui, il y a un livre dont je veux parler. Et ce livre, c'est Le vent en parle encore, de Michel Jean. Michel comme le prénom et Jean comme le prénom. De quoi il s'agit? Un petit résumé vite fait. Qu'est-ce que c'est que ce livre?
En fait, Clotilde, ce livre raconte l'histoire méconnue de ces jeunes Amérindiens qui étaient amenés de force dans des pensionnats éloignés, tenus par des religieux. Okay. Et ce qu'on ne sait pas, ce que je ne savais pas, c'est qu'au début du 20e siècle, on estime que plus de 150 000 Amérindiens, Inuits et Métis ont connu ce sort. Et sur les 135 établissements qui étaient ouverts au Québec, au Canada, 10 l'ont été au Québec. Alors, c'est de ça dont il est question.
Est-ce que ce sont dans ces endroits, parce qu'à un moment donné, il en a été question, je pense, est-ce que c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, justement, on a beaucoup quand même révélé de choses difficiles à vivre pour ces gamins-là, hein, qu'on rasait, entre autres, qu'on éloignait de leur famille, c'est ça?
Donc, c'est absolument ça.
On est là-dedans.
Ça.
Oui, c'est absolument ça. Puis je dois vous dire, Clotilde, que quand j'ai vu ce dont il s'agissait, là, quand j'ai vu le résumé du livre, j'avais pas vraiment le goût de le lire. Je me suis dit, ça va être pénible. Je me doutais là, que ce serait vraiment très pénible. Puis effectivement, il y a des passages qui sont vraiment très durs, difficile, très cruels, très émouvants, je dirais même bouleversants. Mm-hmm. L'ambiance est souvent oppressante, triste. Oui, hein. Mais ce qui m'a vraiment étonnée en le lisant, c'est que l'auteur, Michel Jean, réussit en fait à nous apprendre beaucoup sur la vie des Amérindiens, oui, mine de rien. Alors, par exemple, leur voyage vers le nord pour les longs mois d'hiver, oui, leur campement, les habiletés acquises en jeune âge, comment pagayer, comment fabriquer des raquettes, mm-hmm, des outils, des pièges. Et tout ça, finalement, implicitement, nous rend les personnages très attachants et très réels.
Très incarnés.
Exactement le bon terme. Et ça m'a donné vraiment envie de le lire, d'aller jusqu'au bout et de le partager avec d'autres personnes.
Michel Jean, c'est lui-même un Innu.
C'est un Innu, et même en dédicace, il mentionne que plusieurs membres de sa famille ont fréquenté le milieu dont il témoigne. Alors donc, je pense que c'est entre autres ça qui fait que c'est si incarné, comme vous le dites si bien.
Et qu'est-ce qui vous a touché le plus dans ce livre? Qu'est-ce qui vous a marqué, Francine? Qu'est-ce qui vous a donné envie, finalement, intrinsèquement, de venir nous partager cette lecture-là?
En fait, c'est un peu ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que, d'une part, on apprend beaucoup de cette histoire-là. Puis, d'autre part, on apprend sur les Amérindiens en général. Peut-être que je pourrais vous parler des personnages.
Si vous voulez, parce que c'est ça. Moi, c'est là que je voulais vous amener. Ouais. Parce que je pense qu'ils sont touchants.
Ils sont très touchants. En fait, en premier, il y a Audrey Duval. Audrey Duval, c'est une jeune avocate. Elle travaille à Montréal. On est en 2012-2013. Et depuis quelques mois, elle a entrepris de retrouver des Amérindiens de Mastoyach qui ont fréquenté un pensionnat très éloigné de Fort George à la baie James. Et à ce moment-là, ces Indiens ont droit à une indemnisation, d'accord? Et elles tentent de retrouver, entre autres, trois d'entre eux qui ont l'air comme d'avoir disparu de toutes les fiches civiles. Et cette avocate, Audrey Duval, va finalement retrouver Marie. Marie, qui est maintenant octogénaire, qui vit en ermite sur une réserve amérindienne de la Basse-Côte-Nord. Mm-hmm. Et c'est à travers les souvenirs de Marie que l'on va rencontrer, on va connaître mieux Marie, mais on va aussi connaître Virginie et Thomas, ces trois adolescents qui ont été littéralement arrachés à leur famille sur ordre du gouvernement canadien et qui ont été envoyés en avion dans un pensionnat sur une île à 1000 kilomètres de chez eux. Mmh. Et où là, ils vont être victimes, carrément, de violences physiques et psychologiques. On leur coupe les cheveux, il leur est interdit de parler leur langue, interdit. Leur nom n'existe plus, c'est carrément aberrant. Ils sont désormais des numéros. On les coupe de tout contact avec leur famille. Mm-hmm. Et certains, bien sûr, vont être victimes de sévices corporels et d'agressions sexuelles. Ce qui va donner lieu à des descriptions, je dois dire, qui ont été très difficiles à lire et très touchantes. Ouais. C'est donc un régime de peur et de contrainte pour briser leur personnalité. Mm-hmm. Alors, c'est de ça dont il est question dans ce livre.
De Michel Jean, je vous le rappelle, dont le titre est « Le vent en parle encore ». Est-ce que vous avez un extrait à nous lire?
Oui, j'ai un petit extrait.
Ah oui, j'apprécierais. Nous apprécierions d'ailleurs.
Alors, voilà. Le père de Virginie a d'abord refusé de laisser ses inconnus amener sa fille dans cet endroit qu'il ne connaît pas. Il ne comprend pas pourquoi celle-ci ne pourrait vivre la même vie que lui, une vie qu'il estime heureuse. Mais le fonctionnaire s'est montré intraitable. N'essayez pas de jouer au plus fait avec le gouvernement. Si vous refusez, c'est l'armée qui va les prendre. Comprenez-vous ce que je vous dis? Vous n'avez pas le choix. Le gouvernement a décidé qu'il était temps que les Indiens apprennent à lire comme les autres Canadiens. C'est aussi simple que ça. Nous sommes au 20e siècle. Il est temps, même pour les sauvages, d'apprendre à devenir modernes. Mais c'est l'homme en soutane qui a finalement convaincu le père de Virginie. Nous allons lui donner une bonne éducation, Gérard. Elle sera entourée de religieuses qui veilleront sur elle et sur les autres a-t-il dit d'une voix mielleuse, mais ferme. Vous ne voulez pas vous opposer à la volonté de Dieu et de la bonne Sainte-Anne, j'espère.
Les sauvages, hein, comme on les appelait vraiment à l'époque. Hein, c'est,
absolument.
On comprend pourquoi et encore aujourd'hui.
C'est clairement les sauvages pour les religieux.
Oui. Alors écoutez, instructif, émouvant, touchant, absolument. Si je vous ai bien écouté. Oui. Et c'est pour toutes ces raisons, peut-être, historiquement aussi.
Oui, ça fait partie de notre histoire, je pense, et c'est une histoire méconnue.
Oui.
Le style, je pourrais dire aussi, je pourrais ajouter que le style,
bien sûr.
Le style est simple, retenu, très senti et au service du propos.
Ah, ça, c'est bien. Et puis, c'est pas une énorme brique hein, pour les gens qui aiment mieux, parce que là, il y a parfois des gens qui veulent...
225 pages, à peu près.
Mon Dieu, c'est ça. Donc, ça doit correspondre peut-être, quoi, à 6-7 heures d'écoute, à peu près, il me semble.
Oui,
que c'est
à peu
ça.
Près.
Que
à
vous avez lu, d'ailleurs, et comme on a pu entendre... Francine, c'est une formidable lectrice. Moi, j'adore votre voix, Francine. Je trouve que c'est très, très reposant et très relaxant. Alors, je suis sûre que les gens vont apprécier énormément. Michel Jean, Jean comme le prénom, le titre du livre, vous nous le redonnez.
Le vent en parle encore.
Voilà, lu par Francine Fontaine. Merci, Francine. Je vous réinvite quand vous voulez à cette émission, si cela vous tente.
Absolument.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
La semaine prochaine, à votre place, Francine, il y aura Pascal Bernard, dont ce sera la première visite à cette émission, qui est également bénévole ici chez Vues et Voix. Et Pascal Bernard, qui a lu assez récemment pour vous un livre qui est sorti il y a vraiment très, très peu de temps, enfin du moins qui est sorti il y a maintenant quelques mois, mais qui est disponible en audio depuis peu de temps. Le livre s'intitule « Pour trois couronnes ». Et c'est signé François Garde, comme ça se prononce, G-A-R-D-E. Un petit résumé, nous sommes dans le bureau de feu Thomas Colbert, un mania du commerce maritime. Philippe Zaffar, qui est le jeune préposé au classement des archives, découvre un bref texte manuscrit fort compromettant pour celui qui s'en avérerait l'auteur. Alors, sont-ce des aveux déguisés du défunt ou un exercice littéraire sans conséquence, Philippe Zaffar se lance dans une enquête qui va vite prendre une dimension à laquelle rien ne l'avait préparé. Et on nous dit qu'on retrouve dans ce roman d'aventure déployé sur un siècle et trois continents, rien de moins, de l'Amérique du Nord aux tropiques, l'écriture vive et talentueuse de François Garde, dont le livre précédent, Ce qu'il advint du sauvage blanc, a été récompensé, justement, on en parlait du sauvage récemment, tout à l'heure avec Francine, a été récompensé par 8 prix littéraires, parmi lesquels le prix Goncourt du premier roman. Ce qu'on en a dit dans Le Monde, François Garde fait de l'analyse de texte le ressort d'un palpitant roman d'aventure où se mêlent autant de foi dans les vertus du genre que de malice dans la façon d'en réactiver les codes. Dans l'actualité, le 9 juillet 2013, le critique a écrit « Le rythme posé » ou encore « L'écriture classique, parfois désuète, offre au roman un charme élégant » assez rare, mais désormais propre à François Garde, écrivain hautement recommandable et terriblement réjouissant. Dans Le Point, on a écrit « Pour trois couronnes » confirme le talent de ce haut fonctionnaire passé par les terres australes pour embarquer son lecteur dans des aventures au long cours, tout en l'amenant à faire des escales réflexives sur les questions de l'identité, de la transmission ou de la mémoire. Dans l'Express, on disait le 6 juin 2013 « Si vous demandez à un roman d'être un tapis volant, de vous emmener vers de fabuleux horizons, de vous surprendre jusqu'à la dernière page, précipitez-vous sur celui-ci. » J'ai un extrait à vous proposer tel qu'il est lu par Pascal Bernard. Vous allez voir, c'est un extrait assez intriguant et on va avoir bien hâte de savoir de la bouche de Pascal Bernard à quoi correspond cet extrait-là. Écoutez bien.
Il parlait à voix basse et de moi. Celui qui m'avait abordé me dit « Tu es toujours d'accord pour ce que tu as à faire ?»« Oui, monsieur. Viens avec moi. » Il me conduisit dans une autre pièce. Je suis médecin, je dois t'examiner. Tu comprends?
Oui, monsieur.
Enlève tes affaires, tu peux garder ton tricot. J'ôtai ma veste et la posai sur une chaise, puis mes chaussures, mon pantalon, enfin, sur une confirmation d'un geste, mon caleçon. Nu, sauf les chaussettes et le tricot de marin, avec un sentiment croissant de malaise, j'attendis. La santé est bonne, mon garçon?
Oui, monsieur.
Je ne vois rien d'anormal ou d'inquiétant. Tu vas pouvoir...
Oui, monsieur.
Il m'indiqua la porte opposée à celle du salon. Je la franchis, il la referma derrière moi. Je découvris une chambre quelconque aux rideaux tirés. Dans le lit en bois sombre, sous une couverture, une femme était allongée. Un masque en dentelle noire prolongé d'une voilette dissimulait son visage. Elle respirait paisiblement et ne dit mot. J'ouvris le drap et entrai dans le lit.
Et le monsieur, il est entré dans le lit. On en saura plus la semaine prochaine. À quoi ça rime, tout ça? Eh bien, c'est de ce livre dont viendra nous parler notre ami Pascal Bernard, bénévole ici chez Vues et Voix, qui a donc lu pour vous « Pour trois couronnes » de François Garde, dont nous venons d'entendre un extrait.
Des nouvelles et des livres.
J'ai trouvé ça début janvier dans Le Devoir, un article de Paul Bennett qui nous apprend que Gallimard vient de sortir une brique immense sur l'œuvre de Truman Capote. Je m'excuse, je ne suis pas sûre de bien le prononcer parce que nous, en France, on dit Truman Capote, mais c'est sûr que là, tout le monde va se marrer. Alors, on va essayer de le dire simplement, mais de toute façon, vous voyez très bien de qui je veux parler. Et M. Paul Bennett, dans Le Devoir, qui nous disait « Même en langue anglaise, il n'existe à ce jour aucune édition intégrale et critique de l'œuvre, pourtant déterminante, quant à l'évolution du roman américain de Truman Capote, qui a exploré tous les genres, nouvelles, romans, théâtre, scénarios, reportages, poésie et le plus souvent avec succès. » Alors Gallimard, qui détient les droits sur ses œuvres en français, vient d'en publier un choix assez complet, ma foi, dans la collection Quarto, incluant De sang-froid, qui, inexplicablement, ne figurait pas dans une anthologie précédente. Alors ce gros volume réunit donc, parfois dans des nouvelles traductions, tous ses romans et récits, presque toutes ses nouvelles, dont certaines inédites, imaginez, la plupart de ses propos et impressions de voyage, et dans une dernière partie, une vingtaine de courts portraits de célébrités artistiques. L'ouvrage est précédé d'un texte autobiographique éclairant de Capote sur ses ambitions littéraires intitulé « Ma vie d'écrivain » et c'est suivi d'un résumé remarquable ponctué de photos de sa vie, de son œuvre. Bref, c'est à relire ou à relire sans modération. Alors je me suis dit, mais alors qu'est-ce que nous avons de M. Capote à disposition en format audio gratuit via le SQLA ou l'INCA? Alors, au SQLA, nous avons le fameux « De sang-froid » dont il est question dans cet article-là. Ça avait été enregistré par Point par Point en 2012 et c'est tout à fait disponible. Également disponible, La traversée de l'été, un roman qui a été enregistré par la Magnétothèque en 2007, donc anciennement Vues et Voix, mais c'est toujours la même maison. Et puis à l'INCA, on trouve Cercueil sur mesure. C'est également disponible. On trouve également Musique pour Caméléon. Ça, ce sont des nouvelles de M. Capote. Et il y a aussi, si vous êtes capable de lire en anglais, eh bien, il y a plusieurs titres en anglais à l'INCA, donc qui n'ont pas été traduits, notamment A Christmas Memory et puis Other Voices, Other Rooms de M. Capote aussi. Alors, si tout cela vous intéresse, ben, j'ai pensé que c'était intéressant. Quant à cette brique de 1474 pages, Je ne suis pas certain, je ne sais pas, peut-être remarquez que nous allons l'enregistrer ou peut-être par extrait, on pourrait peut-être choisir un roman ou deux ou alors quelques nouvelles. Je ne suis pas sûre que toute l'œuvre, quoique moi personnellement on peut me donner ça, ça me ferait très plaisir. Je verrais vraiment aucun problème à lire ça, mais ça prendrait, vous l'imaginez, quand même pas mal de temps, 1400 pages là, ça prendrait... À vue de nez comme ça, une fois par semaine, je vous dirais au moins 4 à 5 mois au moins 5 ou 6 mois à lire à haute voix. Mais en tout cas, s'il fallait qu'on me le demande, je ne serais absolument pas contre. Alors voilà, donc pour M. Cabotti.
Quelques nouveautés en rafale.
Un tango, et oui, un tango pour vous parler de ce livre de Arturo Pérez Reverte. Je vous l'appelle Pérez Reverte, c'est en deux mots. P-E accent grave R-E-Z, trait d'union R-E-V-E-R-T-E. Et le titre du livre qui vient juste d'être accessible au SQLA, c'est Le tango de la vieille garde, d'où évidemment ce tango, vous l'aurez bien compris. C'est un roman d'aventure et d'amour que ce tango de la vieille garde, qui narre la liaison tumultueuse d'une riche femme du monde et d'un danseur professionnel, mi-gigolo, mi-gentleman cambrioleur. Le roman se situe dans les années 20 sur un transatlantique et dans les bas-fonds de Buenos Aires, au début des années 30 sur la Riviera, où a lieu une affaire d'espionnage liée à la guerre civile espagnole. Et ensuite, dans les années 60, on s'en va à Sorrente, lors d'un inquiétant tournoi d'échecs. En 40 ans, Max et Mercedes ne se rencontrent qu'à 3 reprises, mais à la passion qui les consume, s'opposent des intérêts liés à des forces obscures. Des lettres du gendre et ministre des relations extérieures de Mussolini, cachées dans le coffre-fort d'un banquier espagnol, pourvoyeur de fonds du coup d'État de Franco, imaginez, tout ça dans le même livre, et les carnets secrets du champion mondial d'échecs détenu par le KGB. On n'a pas du tout envie de lire ça, le tango de la vieille garde. Alors sexe, mes amis, sexe, aventure et glamour sur fond de tango, le nouveau roman d'Arturo Pérez, Reverte, s'adresse à un large éventail de lecteurs et contient tous les ingrédients du succès. D'ailleurs, dans le journal de Montréal, le 13 janvier 2014, on nous disait « À mi-chemin entre le roman historique, le roman d'amour et le roman d'espionnage, son tout nouveau livre à ce monsieur Pérez Reverte est un vrai régal. » Eh bien, régalez-vous.
Thank you.
Et là, j'ai oublié de vous lire la citation extraite du bouquin « Le tango de la vieille garde » de M. Arturo Pérez-Reverté, que je vous lis malgré tout. Alors, petit extrait donc de ce bouquin. « Un ami me disait qu'il y a des tangos pour souffrir et des tangos pour tuer. Le tango des origines était plutôt de ces derniers. Mecha Insusa avait posé un coude sur la table et la paume de sa main soutenait l'ovale de son visage. Elle semblait écouter avec une attention extrême. » Le tango de la vieille garde, l'appelle certains, précise à Max, pour le différencier du nouveau, du moderne. Voilà, le tango de la vieille garde de M. Arturo Pérez Reverté. On change complètement de sujet. Retour ici au Québec et retour surtout sur la vie artistique et surtout sur la communauté classique. Et si je vous parle de musique classique et si je vous dis Claude Gingras, si vous êtes amateur, vous savez tout de suite de qui je parle. Gingras, qui est encore, même s'il est moins là à cause de son vénérable âge, le critique dans la presse de musique classique que Nathalie Petrovski a rencontré alors qu'il avait sorti ce livre qui s'intitule « Notes ». C'est joli, hein? Note, 2 points, 60 ans de vie musicale, confidences et anecdotes de Claude Gingras, qui est maintenant disponible au SQLA. Et Petrovski, qui écrivait dans la presse, « J'adore mon métier ». En fait, ce n'est pas elle qui dit ça, ce n'est pas vrai. C'est M. Gingras qui dit « J'adore mon métier et le jour où je prendrai ma retraite, c'est que je serai mort ». Ainsi parlait Claude Gingras en avril 2003, lorsqu'il a célébré un demi-siècle de critique musicale à la presse. Je l'avais interviewé pour l'occasion dans le fumoir du journal qui s'est envolé en fumée depuis. À l'époque, le célèbre et redoutable critique vivait littéralement à la presse, y écrivait tous les soirs ou presque et ne prenait jamais ce qu'il considérait comme une pure perte de temps, des vacances. Alors nous revoilà 11 ans plus tard, non plus dans la salle de rédaction, où le critique ne vient plus que le lundi pour rédiger sa chronique hebdomadaire, mais au milieu de l'indescriptible bordel de son appartement du Square Saint-Denis qui croule sous les disques et les CD, les partitions poussiéreuses et les vieilles photos jaunies. Combien de disques et de CD? Attendez, j'avais le chiffre ici un petit peu plus loin. 100 000 vinyles et 50 000 CD qui sont dans ce bazar indescriptible. Ça, c'est classé, rangé, ordonné comme des petits soldats. Alors, la mémoire de cet homme est phénoménale, bien sûr, surtout pour son âge. Il aura quand même 83 ans le 1er juillet, mais aussi pour la minutie maniaque de chacun de ses souvenirs. Note, 60 ans de vie musicale en confidences et anecdotes. En tout, ce sont 76 très courts chapitres qui évoquent par ordre alphabétique des gens du passé et du présent, allant du pianiste André Asselin, qui valut à M. Gingras sa première et dernière réprimande patronale, jusqu'à Pinchas Sugerman, en passant par la Callas, Pavarotti, Bernard Usan, Nelly Gant, Negano, Yannick Nézet-Séguin, etc. Le style est à la mesure de l'homme, drôle, précis, pointilleux et un brin malicieux. Pourquoi certains artistes ou musiciens méritent-ils qu'on se moque d'eux? A demandé Petrovski à Gingras, parce qu'il ne s'est pas gêné de temps en temps pour se moquer. Et il répond, Gingras, mais parce qu'ils sont ridicules et prétentieux. Comme ce pauvre Pierre Jasmin qui a écrit des horreurs à mon sujet. Je n'aurais probablement rien écrit sur lui, mais j'avais une anecdote très drôle de bombe puante le concernant. Je ne m'en suis pas privé, mais il manque beaucoup de monde dans ce bouquin. Parfois, c'est tout simplement que je n'avais rien à dire sur eux. Quand je trouverai quelque chose, je ferai une suite. Oubliez, 2 points. Si vous pouviez repartir à zéro, le feriez-vous? C'est de Catherine Mackenzie. Le résumé, Emma Tupper, qui n'a pas prévu de perdre sa mère, elle n'avait pas prévu de tout laisser en plan pour réaliser le rêve de celle-ci, visiter l'Afrique. Elle n'avait surtout pas prévu de tomber malade en safari, ni de se faire soigner dans un village isolé, et encore moins de se retrouver sans possibilité de communication outre-mer pendant 6 mois après un tremblement de terre. Mais on ne prévoit pas toujours ce qui nous arrive, même lorsqu'on est une jeune avocate promise à un brillant avenir. Et lorsqu'Emma revient au pays, elle trouve son appartement occupé, loué à un jeune homme inconnu, car proche des collègues, la croyait morte. Alors est-ce un signe du destin pour tout recommencer, comme semblent le penser ses amis, ou devrait-elle plutôt se battre pour regagner ce qu'elle a perdu contre son gré? C'est un choix que Emma devra faire sans l'aide de personne et qui pourrait être plus complexe qu'il n'y paraît. C'est le troisième roman de l'avocate montréalaise, de plus en plus écrivaine, comme on le disait dans la presse, Catherine McKenzie, dont je vous rappelle le nom oublié. Si vous pouviez repartir à zéro, le feriez-vous ? Je vous signale que nous avons également Ivresse, de la même auteure, qui a également été enregistrée par les soins de Vues et Voix. Il me reste un petit peu de temps, mon ami. Oui, parfait. Alors, je voudrais aussi vous parler de Poisson d'avril, de Josip Novaković. On est dans la Yougoslavie de Tito, le 1er avril 48, commencé sous les plus heureux auspices, la vie de Ivan Dolinar se prend soudain une tangente inattendue quand même ses intentions les plus dures semblent se retourner contre lui, au milieu d'un monde gouverné par la propagande et la paranoïa. À 19 ans, une blague innocente l'oblige à interrompre ses études de médecine et lui vaut d'être envoyé dans un camp de travail. Libéré à la veille de la guerre civile, Ivan s'enrôle du mauvais côté et se retrouve comme pion au milieu d'un échiquier où les alliances et les règles changent sans cesse et sans avertissement. C'est un livre à ne pas manquer de ce professeur de Concordia dont je vous rappelle le nom, Josip Novaković. Ça s'appelle Poisson d'avril. C'était Clotilde Seil et ses invités qui vous souhaitent une belle semaine. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, d'autres invités et surtout d'autres titres. Bonne lecture à vous toutes et vous tous.